Bienvenue sur yogatechnique.net, les yogis, je suis hyper contente aujourd'hui, je sors tout juste d'une interview avec Raj Urakesh, alias Made in India sur Instagram. Vous allez voir, c'est un prof de yoga 100% d'origine indienne avec qui j'ai pu échanger, qui m'a donné beaucoup de réponses à plein de questions que je me posais, et notamment la fameuse qui me taraude depuis des années, c'est faut-il oui ou non être allé en Inde pour être un meilleur prof de yoga? Vous allez voir sa réponse, ça va être très intéressant de partager avec lui là-dessus. Et évidemment, si vous voulez encore plus de contenu gratuit, vous pouvez aller sur yogatechnique.net où on décortique certaines postures, où vous allez trouver des articles de réflexion, et surtout vous pouvez télécharger un bonus spécial qui vous apprend à vous échauffer en 20 minutes seulement, soit pour aller dans une pratique plus avancée, soit simplement pour faire quelques petits exercices d'entretien quotidien. 20 minutes seulement de yoga en vidéo privé avec accès privé. Rendez-vous sur yogatechnique.net. Donc on va découvrir tout de suite le point de vue et un peu l'histoire de Raj. C'est parti. Merci,
bonjour.
Merci d'être là. Alors du coup, je ne sais pas comment t'appeler. J'ai vu que tu t'appelais Raj parfois, Rakesh, Jaïr.
Alors mes amis me parlent Raj, et moi, c'est mon vrai prénom, c'est officiel, c'est Rakesh.
Et toi, t'aimes qu'on t'appelle comment?
Les deux.
Les deux.
Voilà. Okay.
Bon, je vais rester sur Raj alors, je pense.
Ça marche.
Parfait.
Oui.
Alors, ben, du coup, j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi avant qu'on commence, que tu me dises d'où tu viens, comment tu es arrivé au yoga, quel est ton parcours dans le yoga, ton style d'enseignement.
J'ai fait le yoga vinyasa depuis 8 ans. Donc, j'ai enseigné à Paris, dans plusieurs salles de sport, des studios de yoga. Et j'ai fait une retraite aussi récemment avec Yoga Scope ou Kerala avec 12 personnes. Donc, voilà.
Ok, c'est ça. Chouette. Et donc, tu as été formé en Inde pour le yoga.
Voilà, j'ai été formé, mais je n'ai pas une formation payant ou quelque chose. Moi, j'étais formé avec un gourou qui est local à Udaipur, et avec lui, j'ai appris le faire le yoga et tout ça. J'étais pas du tout dans un ashram pour rester un mois ou j'ai passé un mois et faire la formation, non, parce que je faisais le yoga depuis que je suis petit.
D'accord, oui, c'était pas la prochaine question.
Pas à fond, mais petit à petit. Mm-hmm. Et depuis 2012, ça sortit comme ça, et je suis à fond en yoga depuis 2012. Mm-hmm. Et je suis un coach fitness aussi, j'ai passé le diplôme BPJEPS, Form & Force, en 2012, mm-hmm. en France, à Paris. Wow. Donc voilà.
Super, donc tu as vraiment une notion complète du travail du corps et tout ça, c'est vachement intéressant.
Oui, parce que je faisais la lutte aussi, lutte traditionnelle en Inde. Mm-hmm. Toute ma famille, mon père, mon frère aussi, donc depuis tout petit, je suis en sport, donc je faisais beaucoup de luttes traditionnelles et lutte olympique aussi, lutte libre, donc voilà.
D'accord, bon. Super. Donc le côté combattant, le côté yin et yang finalement, combattant, yogi, ok, super, je suis contente d'apprendre ça de toi, parce que du coup effectivement je savais pas, donc c'est une belle découverte. Et donc voilà, du coup moi je t'ai contactée parce que j'avais ce petit questionnement qui me trottait en tête depuis quelques temps déjà. Donc c'était, est-ce qu'il faut avoir été en Inde à un moment donné dans sa vie pour être un bon prof de yoga, ou en tout cas pour être un meilleur prof de yoga? Et j'aurais voulu avoir ton avis.
Alors oui ou non. Première chose, tu peux être bon prof n'importe où dans le monde entier. Par contre, moi, vie aussi, il faut aller en Inde. Par contre, pour comprendre l'histoire du yoga, pour Sabyandu, pour immerger dans le yoga, l'histoire de l'hindouisme, Sabyandu, hindouisme, qu'est-ce que c'est l'hindouisme, c'est quoi les relations avec yoga, c'est quoi les autres religions qui existent aussi en Inde, comme jainisme, sikhisme, aussi les temples, les cultures, les traditions, ça relié avec le yoga aussi. Donc, moi, je dis que oui, il faut au moins une fois aller en Inde, si tu es un prof de yoga, si tu veux devenir un prof de yoga pour aller en Inde, parce que l'origine de yoga, c'est l'Inde. Donc, il faut aller en Inde pour au moins une fois si tu es un prof de yoga. Mais pour un bon prof de yoga, tu peux être n'importe où, avec ton enseignement, avec ton expérience. Donc, tu peux être un bon prof de yoga n'importe où, même si tu ne vas pas en Inde. Voilà.
D'accord. Oui, de ce que je comprends dans tes mots, c'est quand même que toi, tu as une vision, cette vision très globale du yoga, très complète, parce que nous, c'est vrai qu'en Occident, on est plutôt axé posture, asana, qui en fait est une seule des 8 branches du yoga. Donc, on est plus sur l'anatomie, les bienfaits, sur les
Voilà.
organes, sur les muscles, etc. Tandis que toi, vraiment, tu inclus toute la partie spiritualité, qui est un
Ouais.
peu moins familière aux Occidentaux, en fait.
Exact. Donc, l'Occident, ça manque, c'est un yoga très physique, fitness,
Oui.
anatomie, physiologie. Mais yoga aussi, la première chose, c'est la spiritualité que tu trouves en Inde. Donc, il faut voir, aller là-bas pour voir c'est quoi la spiritualité, ça commençait où, qu'est-ce que c'est quoi l'histoire de mythologie indienne, Ramayana, Mahabharata. Ça, si on fait une pause de Garudasana, exemple, ou Virbhadrasana, c'est quoi l'histoire derrière, c'est quoi Shiva, c'est quoi Vishnu, c'est quoi Trinité. Donc, il y a histoire derrière aussi pour être un prof de yoga, il faut comprendre aussi ça aussi. Donc, il faut aller en Inde pour voir comment ça se passe, les temples, les dieux, voilà, toutes les histoires. Voilà. C'est la spiritualité qui manque en Occident un petit peu ce côté. Donc, voilà.
C'est quelque chose que tu regrettes, toi? Tu sens qu'on passe à côté de quelque chose quand on se concentre que sur les asanas et qu'on occulte tout le côté
Non, non, je ne
religieux, en
regrette
fait?
pas. Je connais beaucoup de personnes aussi qui n'ont pas allé en Inde, qui intéressent beaucoup, beaucoup, beaucoup en spiritualité aussi, qui ajoutent aussi dans leur cours de yoga un petit un truc spiritualité aussi. Donc, non, je ne regrette pas qu'il manque un petit peu, mais c'est normal aussi parce que c'est différent. Moi, je suis origine indienne, je suis né là-bas, je suis depuis que je suis là-bas ou depuis que je suis grandi. Je suis immergé dans cette tradition. Donc, c'est normal aussi, les Occidentaux, ils n'ont pas la chance d'avoir cette côté spiritualité et tout ça.
Parce que toi, alors bon, c'est peut-être une question très personnelle, hein, t'es pas obligé de répondre, mais est-ce que tu es hindouiste, finalement?
Oui, je suis 100% hindou et j'ai été formé en hindouisme et mes parents, mais par contre, si tu connais jainisme, je suis jain comme je suis Rakesh Jain. Donc, jainisme, c'est une autre religion. On est presque 3% de la population de l'Inde. La majorité, c'est 3%. Ils ont beaucoup en business et en marchandises et tout ça. Donc, jainisme, c'est une autre religion. Donc, moi, je suis jainisme. Donc, jainisme, c'est les bases de vivre et laisser vivre. Et il faut respecter tous les êtres vivants. Si tu regardes le jainisme, tu verras c'est quoi jainisme et tout. Donc, il y a 3% des populations en Inde, ils sont jains. Dans le monde entier aussi, il y a beaucoup, beaucoup de jains. Comme à Belgique, il y a beaucoup de jains. De Gujarat qui travaillent en diamant et tout. Et donc, jainisme, c'est toujours la base de vivre et laisser vivre. Et il faut respecter tous les êtres vivants. Donc, comme cette religion était très richesse, donc ils ont construit plein, plein, plein de temples partout en Rajasthan, beaucoup plus au nord de l'Inde. Et magnifique temple, un des meilleurs temples, c'est Ranakpur à côté d'Udaipur, qui est magnifique. Donc, moi, je suis cette religion, jainisme. Donc, on respecte tous les êtres vivants, même les plantes. Donc, on ne mange pas les racines comme l'ail, comme le oignon,
Ah
on
oui.
mange pas les carottes, des choses comme ça. Et il n'y a pas de lumière dans les temples temple jainisme parce que quand tu allumes la lumière, il y a des insectes qui viennent, donc tu as risque de manger, etc., etc. C'est des choses comme ça. Et les prêtres jains, il y a deux prêtres, donc il y a deux branches de jainisme. Un, c'est Shvetambara, et deuxième, c'est Digambara. Shvetambara, Shvet, ça veut dire blanche. Donc les prêtres, ils ont habillé complètement blanche, un tissu sur la bouche tout le temps. Et comme on ne peut pas manger l'insecte, on risque de ne pas manger l'insecte. Et après, ils ont pieds nus, ils ne montent jamais dans le transport, l'avion ou le train, ils marchent toujours à pied nus, même si il fait chaleur et tout. Et après, ils ont un truc, donc chaque fois ils marchent, ils balayent pour retirer l'insecte, pour ne pas écraser l'insecte. Voilà. Et
D'accord.
deuxième branche, c'est les prêtres Digambara. Ils sont complètement nus. Donc, même si c'est l'hiver où il fait 45 degrés, 50 degrés, ça veut dire qu'ils quittent tout. Tout ce qui t'appartient, ils quittent tout. Donc, ils sont complètement nus. Donc, c'est les deux branches comme ça. Et, donc, pareil, ils ne coupent pas les cheveux avec les ciseaux. Ils tirent cheveux après cheveux. Ils ne gardent pas les cheveux, voilà. Donc, pour ne pas tuer l'insecte et tout. Donc, ils tirent cheveux après cheveux. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, je suis jainisme. Je suis jain.
Et voilà. ça, avec la vie parisienne, c'est compatible.
Voilà, c'est trop difficile de vivre ici à Paris et tout, mais bon, il faut faire. Voilà. Donc, c'est difficile. Voilà.
Et alors,
quand je suis en Inde, pas de viande, pas de poisson, pas de œuf, pas de cuir. Donc, dans ma maison, il n'y a rien, des choses comme ça. Donc, tu es vraiment un sattvic, ça veut dire un propre repas. Sattvic, c'est le repas très propre. Donc, voilà.
D'accord. Et tu penses que ce courant-là de pensée, il influence ton yoga? Est-ce que tu as plutôt cette approche? Je te dis ça parce que, en fait, moi, j'ai rencontré donc, plusieurs Indiens, j'ai pris les enseignements de plusieurs Indiens, et il y en a qui sont très, très militaires. Genre, tu es obligé de faire la posture, tu dois pas abandonner, tu dois pousser. Et il y en a d'autres où, au contraire, c'est vraiment dans le respect du corps, il faut surtout pas se faire mal. Si ça fait, je sais pas, si par exemple t'as un genou par terre et que ça appuie un peu trop, tu peux mettre une petite serviette pour pas abîmer les tissus, il disait. Donc est-ce que tu constates ça, toi aussi, ces deux tendances?
Moi, je préfère d'aller avec ton corps. Si ton corps, il dit stop, tu stop. Moi, je ne force jamais. Si tu sais pas faire, si t'as mal ou quelque part, tu fais pas. Si ton corps, il dit stop, tu stop, tu ne forces pas. Il faut aller vraiment écouter ton corps, il faut aller doucement. Donc yoga, c'est la pratique. Plus tu vas faire, plus tu vas aller plus loin. Tu vas pas faire une journée, tu vas pas amener les jambes derrière la tête. Ouais. Donc il faut aller doucement. Et moi, je préfère, toujours dans mon enseignement, je dis toujours écoutez votre corps. Si vous n'allez pas, il y a plein d'options différentes. Ça sert à rien de forcer et blesser après. Aussi, ça, en Inde, ça manque de, parce que il y a pas des études pour la physiologie, anatomie et tout ça. Donc c'est peut-être ça aussi, ça manque en Inde, les personnes qui donnent les cours de yoga, mais je ne dis pas tous, il y a très très bon de profs de yoga, mais il y a beaucoup, les personnes, ils n'ont jamais passé l'école ou quelque chose, ils donnent les cours de yoga, donc ça manque peut-être un peu anatomie et physiologie, ils ne savent pas si les gens ne dépassent pas les orteils, qu'est-ce qui se passe, si on fait trop combler le dos, qu'est-ce qui se passe et tout ça, donc ça manque aussi des choses comme ça.
Ah, donc tu es en train de dire que quelque part, il faudrait que l'Inde s'inspire un petit peu de cette approche très technique du yoga, qui
oui.
est purement occidentale.
Mais je ne dis pas tout le monde, mais il y a beaucoup de profs de yoga, pas que profs de yoga, mais profs de sport aussi, qui ne passent jamais les diplômes ou les connaissances de physiologie ou anatomie. Oui, il y a beaucoup de profs de fitness et tout qui en manquent quelque chose.
D'accord. Voilà. Donc, pour résumer, tu estimes que toi, pour être un meilleur prof de yoga, en tout cas, il faut quand même aborder toute cette partie spirituelle, toute cette partie traditionnelle, historique même. Hein,
très important de savoir aussi de l'anatomie et physiologie, ça c'est très important.
Ça. Oui, mais beaucoup ça, déjà, voilà. Comme c'est déjà un petit peu axé comme ça dans le yoga occidental, c'est pour ça que j'essaie de faire le pont avec toi, ta façon de voir les choses et le fait qu'effectivement, il faut à un moment aller en Inde. Et qu'est-ce que tu... Parce que ça, dans l'absolu, c'est des choses qu'on peut étudier dans les livres. Le Mahabharata, je l'ai lu, le Bhagavad Gita, tout ça. Mais est-ce que tu penses qu'il faut quand même aller sur place pour... Est-ce qu'il y a quelque chose à sentir en plus, je sais pas, une énergie, un art de vivre un peu à l'indienne qui
c'est ça, c'est ça que j'ai dit, il faut aller au moins une fois pour voir comment ça se passe, c'est quoi l'histoire dans les temples, les dessins, les figures, les statues et tout ça, qu'est-ce que c'est Mahabharata, c'était qui, d'écouter avec les personnes qui sont locales là-bas, c'est génial, on peut lire dans les bouquins et tout ça, mais écouter par les personnes qui sont là-bas, ou voir comment ça s'est passé, voir les statues et tout ça, pour immerger dans cette... voilà, donc voir c'est très important d'aller, je crois que pour voilà.
Et est-ce que tu as l'impression quand même qu'il y a un moment où ça s'est un peu perdu, le yoga en Inde? Je te dis ça parce que j'ai fait beaucoup de capoeira dans une autre vie il y a quelques années. Le berceau de la capoeira, bon, je ne sais pas si tu connais, mais c'était le Brésil. Et moi, j'ai appris au Brésil au départ. Et pour moi, c'était inconcevable d'espérer devenir prof de capoeira sans être allé au Brésil parce qu'il fallait absolument aller sentir cette énergie, comprendre aussi toute cette partie spirituelle qui existe aussi, les chants. tout le panthéon des dieux vaudous, tout ça, qui influençait beaucoup la capoeira. Et donc, je disais beaucoup aux élèves en France qu'il fallait absolument aller au Brésil, que c'était essentiel dans leur parcours. Sauf qu'au bout de quelques années, le capoeira s'était soufflé au Brésil. Et du coup, quand on amenait des élèves là-bas, ben, en fait, ils étaient déçus parce qu'il n'y avait plus grand monde qui pratiquait. Et finalement, ben, vraiment le vrai foyer actif de la capoeira, c'était devenu l'Europe et les États-Unis. Donc, il y avait quand même cette espèce de bascule à un moment donné où le Brésil a un peu perdu son bébé, en quelque sorte. Et j'ai l'impression qu'avec les dernières mesures qui ont été prises en Inde pour récupérer un peu le yoga ou l'Ayurveda, d'ailleurs, la journée internationale du yoga, tout ça, c'est très récent. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a eu un moment où, justement, le yoga n'intéressait plus tellement les Indiens, en fait ?
T'as bien raison. Il y a 15 ans ou il y a 10 ans, yoga il faisait beaucoup plus dehors de l'Inde. En Occident, c'était déjà arrivé beaucoup. Il y a plusieurs types de yoga. Donc, Bikram yoga, c'est un Indien qui allait aux États-Unis. Flying yoga, des centaines de, yoga, de différents types de yoga. Mais en Inde, c'était vraiment parti en quelques années. Donc, il y a 10 ans, il y a 12 ans, le monsieur Narendra Modi, le premier ministre, il est arrivé en pouvoir et c'est un nationaliste. Donc, il a mis sur place le yoga avec Ramdev Baba, un sadhu qui a lancé ce mouvement de yoga. Il a commencé à zéro et il est devenu très connu. Beaucoup de gens qui suivent encore sur la télé, des milliers de personnes. Donc, c'est grâce à ce premier ministre qui a fait deux choses qui est très bien, de mettre le yoga en place en Inde, dans les écoles, partout. Maintenant, il y a un moment, tout le monde fait le yoga, pas tout le monde, il y a beaucoup plus de personnes qui font le yoga. Ils comprennent c'est quoi le yoga, c'est notre origine, il faut faire, il faut garder, il faut sauver. Donc, grâce à Ramdev Baba et Premier ministre Narendra Modi, qui a mis en place le yoga et tout. Donc maintenant, tu vois, il y a beaucoup de gens qui font le yoga dans le parc, quand tu vas le matin, dans les parcs, sur la rue et tout ça. Donc il y a beaucoup de gens qui font le yoga. Et même maintenant, moi aussi, quand je vais en Inde, beaucoup de gens qui m'apprécient aussi parce que ce métier n'apprécie pas. Il y a 15 ans, coach fitness ou un yogi en yoga. Donc beaucoup de gens m'apprécient aussi. Et beaucoup de gens me demandent qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, qu'est-ce que tu conseilles. Beaucoup de messages que je reçois par des Indiens tous les jours. Donc même dans ma famille aussi, personne ne faisait le yoga. Et depuis que j'ai commencé, il y a 2 ans maintenant, mes soeurs, mes frères, ils me demandent comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, ils font avec moi et tout ça. Donc ils ont compris que c'est bien le yoga, il faut garder notre origine, notre voilà. Oui, donc il y a un moment, tous les matins, le Ramdev Baba il passe sur la télé live et il est suivi avec milliers de personnes sur la télé et tout.
Ah, c'est génial ça. Ah oui, c'est marrant. Donc tu dirais que
là, et même dans l'école maintenant, je crois que c'est obligatoire de faire le yoga avant d'aller dans la classe, de un peu salutation de soleil, la méditation et tout. Et aussi, ça aussi, il y a 4 ans, M. Narendra Modi, il a mis pour la journée mondiale du yoga aussi, ça c'est très bien. Donc, moi, je trouve que c'est très bien qu'il a fait. Après, il a fait des mauvaises choses aussi, mais ça, il a fait très, très bonnes choses pour le pays.
D'accord. Donc, maintenant, les Indiens, tu veux dire qu'ils intègrent beaucoup plus le yoga à leur quotidien et qu'ils sont en demande, justement, de ça, quoi.
Et ça se voit quand tu vas... Ouais, ça se voit quand tu vas en Inde et tout ça. Donc, ça se voit dans les parcs, le matin, dans les temples. Voilà, donc ça se voit.
Donc, ils ont une pratique finalement un peu plus, enfin très personnelle. Ils ne vont pas forcément aller dans des studios, aller prendre des cours. Ils intègrent en fait le yoga.
Non, pas du tout. Voilà, c'est ça. Donc, comme j'ai dit, ils suivent les cours sur la télé, les lives et tout. Donc, ils ont les pratiques, voilà, les salutations de soleil, les respirations, les pranayama et tout. Donc, oui.
D'accord. Ah ben ça donne encore plus envie d'y aller là du coup.
Ouais, ben voilà.
Et alors pour ceux qui auraient envie d'aller en Inde pour le yoga, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Où est-ce que
alors
tu leur
pour le yoga, si tu veux aller en Inde pour le yoga, il faut aller absolument dans le nord de l'Inde où il y a beaucoup d'ashrams authentiques, pas les profs occidentaux. parce que comme à Goa aussi, il y a beaucoup de ashrams, mais il y a des profs occidentaux qui viennent pour donner l'enseignement. Et moi, j'aime bien aller à Rishikesh, Haridwar et tout ça, c'est vraiment... Parce que pour les hindouismes, pour les hindous, c'est la porte de paradis. Là-bas, c'est le Gange, il y a la Varanasi, Banaras, après t'as Haridwar, après t'as Rishikesh. Donc, c'est vraiment... c'est un vrai lieu, quoi. C'est pas comme Goa, il y a la plage et tu restes 15 jours et voilà, tu restes sur la plage et tu fais l'enseignement et tout. Mais là-bas, il y a des temples, tu racontes plein de sadhus, plein de gens, des hindous et tout. Et il y a une vraie histoire. Donc, je crois qu'il faut aller au nord de l'Inde voilà, pour faire le yoga. Même pour le voyage, il faut commencer par le nord de l'Inde parce qu'il y a l'histoire derrière, les traditions, les cultures, les fêtes et tout ça.
D'accord, donc le côté vraiment authentique, ce serait le nord, et le côté touriste, un peu Disneyland, ce serait Goa.
Voilà, fait. Et Goa, voilà.
D'accord, donc, voilà. Enfin, je ne juge pas, mais c'est juste que pour, voilà, si les gens ont envie de se
renseigner. Ouais, moi aussi, je ne juge pas, il y a des très bonnes écoles aussi à Goa, il y a très très bonnes écoles aussi à Goa, mais ça manque un peu de tradition, les temples, les gens et tout, donc. Il n'y a que des Occidents là-bas quand tu vas à Goa, il y a presque que des Occidents qui viennent là-bas. Donc ça ne change pas d'ici ou là-bas. Donc il faut aller au nord de l'Inde pour voir Rajasthan, pour l'histoire, pour c'est quoi jainisme, c'est quoi hindouisme, les temples, les traditions et tout.
Et alors, petite question qui me trotte en tête là, est-ce que tu prends les cours des Européens, toi?
Oui, bien sûr. Je prends avec mes profs de yoga, des studios. Donc, je fais avec eux aussi, pendant le live aussi, pendant le confinement aussi, j'ai fait plein de yoga avec mes amis. Donc, c'est des amis, c'est des profs de yoga.
D'accord. Donc, c'est des profs de yoga occidentaux, en fait.
Occidentaux, ouais.
D'accord.
Ouais.
Et ça leur met pas la pression quand tu es dans leur cours?
Non, pas du tout. J'aime beaucoup d'essayer de comprendre et comment ils donnent le cours de yoga et tout. D'apprendre, on apprend tout le temps. Donc, on apprend avec quelqu'un, on apprend. Donc, j'aime bien apprendre l'enseignement, comment ils donnent et tout ça. Donc, j'aime bien.
D'accord. Et eux sont voilà. Pas allés en Inde, du coup.
Y a Anna qui n'est jamais allée en Inde, je connais, mais ils sont très très intéressants. Ils connaissent déjà c'est quoi Mahabharata, c'est quoi Ramayana, ils racontent l'histoire et tout ça, donc ça m'impressionne aussi qu'ils n'ont jamais allé en Inde. Ils ont très envie d'aller en Inde et ils sont déjà intéressés de toute l'histoire de l'Inde, la mythologie indienne, mythologie hindouisme. Donc, ouais, y en a qui n'est pas allé, mais y en a qui est allé aussi, qui adorait. Qui vont tout le temps maintenant, tous les 3 mois, 4 mois, pour faire les formations et tout. Et ils adorent, et c'est des Occidents, c'est pas des Indiens et tout. Donc voilà. Donc il y a deux types, il y a deux personnes.
Oui, après, alors ça aussi, c'est une interrogation, enfin, c'est un frein souvent. Les gens qui ont envie d'aller en Inde, ils ont peur de. Parce qu'en gros, moi, si tu veux, les retours que j'ai de gens qui sont allés en Inde, autant les yogis que les non-yogis, c'est quand même violent, c'est un vrai choc des cultures, et soit ils détestent, soit ils adorent, et effectivement ils veulent y retourner tout le temps. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un moyen de se préparer à ça, à cette espèce
de dépaysement total? Tu as bien raison que quand tu vas en Inde, soit tu aimes ou soit tu détestes, tu iras jamais, ou tu vas tout le temps, et tu vas émerger complètement. Ben, parfois les gens ils restent là-bas aussi. Après, il y a l'image qui est très mauvaise de l'Inde, si tu n'es pas allé, il y a vraiment une image où il y a des cadavres dans la rue, les gens ils meurent dans la rue de faim et tout, c'est très saleté. Ce qui est le saleté aussi, c'est la raison, c'est la vérité aussi, mais pas partout. Et donc ça, mettez de l'autre côté, et il y a une très mauvaise image de l'Inde en Occident, que, oh là là, c'est très difficile, les gens ils meurent de faim dans la rue, les gens trop agressifs là-bas et tout, pas du tout. Il faut aller voir, soit tu aimes ou soit tu détestes, mais il faut aller voir une fois au moins. Après, il y a beaucoup de gens qui aiment et qui arrivent ici, ils disent « Ah, tout ce que j'ai imaginé, c'était faux. Tout ce que j'ai imaginé, mauvaise chose pour l'Inde, c'était faux. Les gens, ils adorent, les gens, ils sourient tout le temps. Il y a couleurs, les couleurs, les temples et tout. Mais il faut bien préparer d'abord la misère. D'abord, si tu n'es jamais sorti d'Occident, la misère, la pauvreté, ça c'est sûr. Et après, il y a de très belles choses.
Oui,
il faut mettre ça sur le côté et il faut voir des positives choses qui est très 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 que tu verras jamais et tu diras vraiment que c'est un pays qui fait qu'est-ce que dit, c'est vraiment, c'est un bel pays, quoi.
Voilà. Oui, et puis
que ça marque, c'est un pays qui ça marque dans ton vie, ce que tu souviendras toute ta vie.
Oui, ça, j'en doute pas. Je pense que c'est vraiment un pays qui change ta façon de voir les choses, que tu aimes ou pas. Je pense qu'il doit y avoir un avant l'Inde et après l'Inde. Ouais,
voilà. Et quand tu arrives après le voyage de l'Inde, tu changes de façon de penser. C'est quoi la vie? Pourquoi on fait ça? Tu poses la question. Donc, quand tu vois la vérité, donc voilà. Quand tu n'es jamais allé, tu ne peux pas imaginer des choses comme ça. Donc, voilà.
Donc, est-ce que tu considères justement, alors que des profs de yoga qui seraient très expérimentés en Occident, qui aient déjà pas mal d'années d'enseignement derrière eux, tout ça, et qui ne sont pas allés en Inde, tu considères qu'il leur manque quand même quelque chose?
Ouais, il faut aller en Inde au moins une fois, voir, pour juste faire expérimenter si
oui,
vous aimez.
Oui, c'est pas forcément aller faire une formation.
Si vous aimez,
quoi,
si vous aimez, si vous détestez, voilà, c'est pas grave. Donc, chaque personne, c'est différent. Mais il faut aller moins, si tu fais le yoga, c'est au moins, il faut aller moins une fois. Tu apprends chinois, tu apprends japonais, tu n'es jamais allé en Chine, ça, c'est bon. Mais il faut aller vraiment une fois pour voir.
Pour avoir une vraie vision globale de tout ce qu'englobe le yoga. Et alors, je voudrais juste revenir sur tes lives, parce que moi, je t'ai découvert à travers ça, en fait. Tu faisais des lives Instagram pendant le confinement, parce qu'il faut dire aussi que tu as passé ton confinement en Inde, alors que tu étais à Paris le jour d'avant. Donc, tu as choisi. C'est un choix de ta part d'être allé te confiner.
Oui, c'était pas choisi, c'était d'un coup arrivé le 17 mars. Le 16 mars, le monsieur le président qui est venu sur la télé, il a dit à partir de 17, on ferme les frontières et on ne sait pas comment ça va ouvrir. On verra, il y a le confinement qui pose en France. Moi, j'avais un billet pour aller dans le sud avec mon copain. Et le 16 soir, il est parti et moi, j'ai dit pourquoi pas aller en Inde pour passer le temps avec la famille. Je ne sais pas comment ça va durer, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Donc, let's go. Donc, j'ai pris le dernier avion pour aller en Inde, à Delhi. C'était le dernier avion qui partait en Inde. Donc, j'ai pris ce dernier avion. Après, il ferme les frontières, la France vers l'Inde et l'Inde vers l'Europe. Donc, c'était tout est fermé. Donc, j'arrive en Inde le 17 mars à Delhi. J'ai passé une nuit à Delhi. C'était très difficile parce que parfois, il mettait les gens sur le côté. Il a amené dans un hostel à Delhi. Il prenait les températures. Toutes les personnes qui venaient d'Europe, il a amené direct à la hostel à côté d'Eli où il n'y avait rien, tu dois rester je ne sais pas combien de jours. Donc moi j'ai eu la chance, je suis sorti dehors et j'ai passé une nuit à Delhi et après je suis arrivé à Udaipur. Après j'ai passé 5 jours en confinement, de l'État, là-bas c'était obligatoire, 14 jours. Donc ils m'ont amené dans un hostel, j'ai resté 5 jours là-bas, il n'y avait rien. Oh. C'était très propre, c'était très propre, il y avait salle de bain, il y avait un messier et tout. C'était très propre, mais c'était en prison, il y avait des policiers dehors, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas contacter ta famille et tout. Donc j'ai passé 5 jours là-bas.
C'est le stress de ce virus quoi, parce que bon, tout ça c'est le côté pratique, mais il y a quand même la peur.
Même si tu ne tombes pas malade avec les autres personnes, tu as risque de tomber malade. Donc j'avais très peur de voilà, mais heureusement j'ai eu la chance. Après, au bout de 5 jours, ils ont dit ok, vous allez faire le confinement chez vous. Donc je suis allé chez moi avec ma famille. Donc j'ai fait 14 jours le confinement là-bas.
Et tu les avais pas vus depuis longtemps?
Pardon?
Tu les avais pas vus depuis longtemps, ta famille?
Non, je suis allé au mois de novembre et là je suis allé en Inde aussi au mois de février. J'ai essayé d'aller tous les 2-3 mois pour voir. Voilà. Donc, je suis allé, j'ai passé les 14 jours là-bas. Dès que j'ai fini les 14 jours, le 28 mars, j'ai commencé les lives. Mm-hmm. Et j'ai fait mon premier cours caritatif parce que quand j'ai vu le confinement qui est imposé en Inde, donc comme ça, des milliers de personnes qui étaient dans la rue, sans manger, pas de portable, pas de batterie. Il y a beaucoup d'ouvriers qui étaient déplacés pour aller au travail parce que l'Inde, c'est immense. Pour les personnes du nord, il y a dans le sud, le sud d'aller dans le nord. Et le confinement a été imposé le 25 mars. D'un coup, aucune prévenir, aucune rien. Le premier ministre est arrivé à la télé.
Les ouvriers qui étaient loin de chez eux, tu veux dire, ils n'ont pas pu rentrer chez eux, voilà. En fait. Ah ouais.
C'est ça. Donc, pas d'avion, pas de train, pas de bus, aucun transport. Et tout était fermé. Donc, les gens, ils marchaient des milliers et des milliers de kilomètres pour arriver chez eux. Il y a plein de photos, plein d'histoires. Il y a une fille qui marchait 1500 kilomètres avec son père sur le vélo pour arriver chez elle. Une femme qui tire son bagage et un petit qui est dormi sur le bagage et elle tire. Donc plein de choses. Il y a beaucoup de femmes qui étaient accouchées sur la roue. Donc il y a des catastrophes. Donc je me suis dit pourquoi pas aider les gens comme ça, au moins une petite chose. Donc j'ai fait mon premier cours caritatif le 28 mars et j'ai eu très très bonnes réponses.
Il y avait beaucoup de monde à ton cours, il y avait
300%, oh presque 300%. Donc c'était très bien. Je voulais faire juste un seul cours caritatif et quelqu'un qui m'a dit pourquoi tu fais pas jusqu'à le confinement qui dure pour aider les gens comme ça. Donc j'ai décidé de faire tous les jours live gratuit et pour une semaine, une fois dans la semaine, je voulais faire un cours caritatif. Donc ça a duré jusqu'à 3 mois. J'ai eu une très très bonne réponse, très très bon les personnes qui ont donné les dons et tout ça. Et grâce à cette don, on a nourri avec mon don, avec votre don et avec mon travail, j'ai nourri tous les jours 200-300 personnes les repas. Donc les personnes qui n'avaient pas de repas pour manger et tout, plus les personnes qui n'avaient pas de courses dans la maison pour nourrir les enfants, les femmes et tout. Donc on a aidé aussi les personnes comme ça, les petits marchandises comme les tuk-tuk, les personnes qui vendent des petites choses dans la rue, ils n'avaient aucune l'argent pour depuis pendant 3 mois, pas de boulot, pas de business, donc forcément il avait rien pour manger. Donc on a aidé aussi les personnes comme ça pour nourrir, voilà.
Ah ouais, donc tout ton périple, toutes les difficultés que tu as eues pour arriver à destination, quelque part, d'une
certaine façon. Voilà, c'était un destin.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Tu vois ça comme un coup du destin.
Pour aller à l'Inde, au début, vraiment, j'avais un billet de train pour arriver dans le sud. Donc j'ai annulé ce billet et j'ai réservé le 16 mars, le soir, le billet pour aller à l'Inde, le dernier avion que j'ai pris. Et voilà.
Donc. C'est admirable, ouais. Hein, vraiment, je trouve ça fantastique parce que bon, fallait vraiment être motivé en fait, parce que vu tout ce que tu as subi quand même pour arriver jusqu'à chez toi, il faut être.
Je remercie aussi les personnes qui ont donné les dons aussi parce que j'ai eu vraiment, vraiment bonne réponse. Pendant 3 mois, je faisais tous les jours les lives et les personnes, ils ont beaucoup aimé. J'ai eu beaucoup de contacts que je connais. Maintenant, je reçois les messages. Quand est-ce que tu vas chez moi? On mange ensemble. Tu prends un café ensemble. Tu vas en Corse. Tu vas aux États-Unis. Donc, je reçois tous les jours les messages. Ça me fait très, très plaisir d'avoir ces messages que je reçois tous les jours. Voilà.
Oui, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige, en fait. Parce que moi, je t'ai découvert comme ça. En fait, j'ai vu une story d'une amie qu'on avait en commun qui était enchantée par tes cours. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je vais aller voir. Et ouais. Voilà, effectivement. Donc, ton compte, il faut le dire quand même, hein, sur Instagram, c'est Made in India.
C'est ça, ouais.
Et est-ce que tu continues ces cours en live?
Je commence mon travail maintenant. Je reprends mon travail à partir de 22. Donc, il y aura beaucoup moins des cours live. Là, c'est les dernières semaines que j'ai fait 3-4 lives. Et les dimanches, je fais une journée internationale, mon dernier cours de live, malheureusement. Peut-être que je ferai après aussi, mais selon de mon travail, comment ça se passe.
Oui, c'est sûr que il faut reprendre son travail.
Dimanche, c'est le 21 juin, c'est la journée internationale de yoga. Donc je fais un cours live aussi le 18 à 18h et aussi le 11h aussi je fais une cause pour les femmes, fondation des femmes. Donc on est 10 profs, donc c'est un marathon de yoga. Donc avec d'autres groupes, on fait un marathon de yoga, donc on fait 10 heures de yoga et moi je fais à 11h le matin un cours de yoga avec les enfants et les adultes aussi. Donc, c'est tous les l'argent qu'ils vont récolter, qui vont aller à Fondation des Femmes aussi. Et pendant les confinements aussi, j'ai fait 2 fois les cours pour Fondation des Femmes, qui tous les l'argent qui était récolté était envoyé à Fondation des Femmes.
Voilà. D'accord. Donc, si on veut plus de renseignements, on va sur ton compte Instagram. Est-ce que tu as un
site internet? Sur mon Instagram, plutôt, voilà.
Il y a un site internet, quelque chose où...
Non, pas du tout. J'ai pas de site internet. D'accord. J'ai mis quelques vidéos sur YouTube aussi quand pendant le confinement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'Instagram. Donc, je faisais sur Facebook, Instagram et YouTube. J'aime pas trop cette... Je suis focalisé sur Instagram, c'est tout. Donc, j'aime pas trop les sites, les YouTube, tous les jours mettre les vidéos et tout ça. Donc, je veux pas
trop. Voilà. Oui, il vaut mieux que tu sois concentré sur ton yoga. Mais voilà. Bon, en tout cas, les gens qui ont envie de bénéficier de ton enseignement, ils savent.
Je vais donner des liens, voilà, sur Instagram et voilà.
Ok, bon, de toute façon, je mettrai tous les détails disponibles pour en savoir plus sur toi.
Ok.
Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dire pour conclure?
Voilà, j'espère que je vous ai envie de donner aller en Inde au moins une fois.
Et est-ce que toi, tu prendrais en charge justement, tu sais, il y a beaucoup de profs de yoga qui organisent des retraites, des voyages yoga. Est-ce que toi, ça t'intéresse?
Mais je suis en train de voir maintenant, je voulais faire la retraite de yoga en Inde avec moi. J'ai fait aussi, parce que j'ai quitté France en 2016 jusqu'à 2018, presque 2 ans. Donc, je suis allé en Inde, donc réseau familial. Donc, je suis allé en Inde, je voulais faire quelque chose. Donc, j'ai lancé mon site où je faisais les guides. C'était l'ami de voyage, tu verras sur Instagram, c'est écrit l'ami de voyage.
D'accord.
Et je faisais les guides pour voyager. Donc, il y avait beaucoup de Français qui venaient et moi, j'ai accompagné avec eux pour voyager, pour voir avec ma façon le Rajasthan, les Delhi et tout ça. Donc, j'ai eu très, très bonne réponse. J'ai eu 15 personnes pendant 2 ans. J'ai eu 15 personnes pour faire un tour de Rajasthan et l'Inde, et presque, voilà, Rajasthan et nord de l'Inde plutôt. Donc, j'ai fait cette expérience aussi et c'était génial, cette expérience aussi que j'ai fait. Et je voulais faire cette année, mais à cause de Covid, c'est impossible. Donc, peut-être bientôt, je vais faire une retraite. Donc, un voyage et retraite, les deux.
Bon, ben, affaire à suivre, alors. Moi, je serai la première intéressée, je pense.
C'est ça.
Bon, en tout cas, tu m'as donné très envie. Donc, moi, je ne l'ai pas dit au début, mais moi, effectivement, bon, tout le monde l'aura compris, je ne suis jamais allée en Inde. Je sens que c'est quand même un petit manque chez moi. Mais voilà, là, tu m'as convaincue qu'effectivement...
Et toi, tu pensais quoi de... Pourquoi tu n'es pas allée...
Alors écoute, moi j'ai un problème avec la condition des femmes. Déjà, c'est quand même quelque chose de très bloquant pour moi. Et après, c'est pas quelque chose qui m'aurait arrêté, mais c'est surtout que j'ai eu des enfants, et c'est encore jeune, donc j'ai eu quelques années comme ça, j'étais complètement consacrée à mes enfants. Mais c'est vrai que ça reste. Moi, ça fait 6 ans que j'ai été formée au yoga Bikram, donc formée par le fameux indien Bikram Choudhury. Et donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que je garde dans un coin de ma tête comme un passage obligé à un moment donné.
Je vais
être obligée d'y aller. Et là, tu m'as donné vraiment envie, tu as encore plus éveillé cette envie-là. Donc oui, je pense que, allez, on va dire dans une limite de 2 ans, ce serait quelque chose à réaliser. Je vais demander à l'univers.
Okay.
Voilà. Donc si tu organises des tours du nord de l'Inde en attendant, il se peut que je sois ta première cliente, ouais, vraiment.
merci. Donc tu verras l'information sur Instagram, Made in India, et voilà.
Ouais, de toute façon, je vais te suivre assidûment parce que je suis persuadée que tu as encore beaucoup de choses à développer et que les gens vont te suivre quoi que tu fasses. Donc voilà, je te souhaite vraiment beaucoup de succès et de continuer.
Merci, toi aussi. Merci, c'est très gentil de me proposer cette interview. Je suis ravie. Et voilà, merci beaucoup.
Ben, merci à toi d'y avoir répondu, c'était un plaisir.
Merci. Bye.
Bye.